RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir les auditeurs, bienvenue dans le programme du journal. Aujourd'hui, on commence par le titre « Une exposition indo-japonaise sur l'histoire renforce la coopération culturelle avec le Japon ». L'Indonésie attend la libération des anciens de l'embargo américain. Les participants de la voile d'Indonésie 2018 entrent à Kupang. Le consulat général de Chine a apprécié le traitement des touristes étrangers après le tremblement de terre à Lombok. Et la diaspora indonésienne et le ministère de l'Intérieur ont signé un mémorandum d'accord sur les villes jumelles. Voici les journaux complets. Dans le cadre de la commémoration du 111e anniversaire de la Journée nationale de l'éveil qui a coïncidé avec le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Japon, le ministère indonésien de l'Éducation et de la Culture en coopération avec la Bibliothèque nationale de la République d'Indonésie, ou PNRI, les Archives nationales de la République d'Indonésie, ANRI, l'Agence nationale de nouvelles Antara et la succursale d'Indonésie de l'imprimeur appartenant à l'État PNRI de Surakarta. Lokananta ont organisé une exposition historique sur le thème de la floraison du maïs entre Bedil et Sakura. Cette activité a été officiellement ouverte récemment par la directrice générale de la culture du ministère de l'Éducation et de la culture de la République d'Indonésie, Hilmar Farid, dans le bâtiment du PNRI à Jakarta. Selon Hilmar, une partie du matériel exposé était de nouveaux matériaux qui n'avaient pas encore été montrés au public. Par conséquent, cette exposition historique fournira beaucoup d'informations sur la période d'occupation japonaise en Indonésie en 1942 à 1945. Certains matériaux de cette exposition sont présentés pour la première fois. Il existe plusieurs collections de Pays-Bas, de la Bibliothèque nationale, des Archives nationales, et nous souhaitons bien sûr que le public puisse accéder à de tels documents historiques. En plus de faire une exposition, nous publions également des livres, puis à la Galerie Antara le 14 août. Tout à l'heure, nous avons parlé des riches conversations et expositions à plusieurs villes afin que le public puisse accéder plus largement à l'exposition. Il fournira des informations qui, à mon avis, sont très importantes sur notre section historique 1942-1945 sur la période d'occupation japonaise. Hilmar a expliqué que le but de l'exposition était de fournir une éducation à la communauté et de renforcer la relation de cœur à l'Indonésie et au Japon qui est établie depuis longtemps, en particulier sur l'aspect culturel. Cette activité devrait ouvrir des possibilités de coopération dans le domaine culturel entre les deux pays, plus fort, plus large et plus dynamique à l'avenir. Hilmar a également déclaré que sa partie avait discuté de l'échange de ressources historiques entre l'Indonésie et le Japon. Parce qu'il y a encore beaucoup de sources historiques de l'Indonésie qui n'ont pas été consultées au Japon. Le gouvernement indonésien attend la libération des sanctions de l'embargo américain liées au plan d'achat des 11 avions de guerre Sukhoi ou Su-35 de la Russie. Et il est déclaré par le ministre de coordination des politiques juridiques et de la sécurité, Wiranto, lors d'une réunion de coordination spéciale sur l'acquisition Su-35, le programme de développement des avions de combat Indonesia Experiment Fighter, vendredi à Jakarta. Le président américain, Donald Trump, en août 2017, a signé une loi qui régit les sanctions aux pays qui achètent le système principal d'armement de la Russie. Cependant, en juillet 2018, le secrétaire américain de la Défense, James Norman Mattis, a demandé au Congrès de fournir des secours sur la sanction. Wiranto a également bien accueilli la politique américaine avec la soumission de légèreté et prévoit de libérer les sanctions. L'achat de 11 avions de combat de génération 4.5 pour remplacer le F-5 Tiger obsolète d'une valeur totale de 1,14 milliard de dollars américains. Le paiement de la politique bilatérale de l'Indonésie et de la Russie a été réalisé par le système de troc, à savoir échangé avec des produits d'exportation tels que le café, l'huile de palme, du thé et d'autres produits agricoles. Quelques participants de la voile de l'Indonésie 2018 venant de nombreux pays du monde sont arrivés à la plage de Kupang, à Nusa Tenggara de l'Est. Cité par l'agent de presse Antara, le chef chargé de destination de l'administration du tourisme de Kupang, Pomi Oja, a déclaré mercredi qu'il y avait une dizaine de navires arrivés. Certains d'entre eux sont en route pour Kupang et des dizaines de participants de la voile Indonésie 2018 ont quitté Darwin en Australie le 27 juillet en direction de la plage de Kupang. Jusqu'à présent, la plage de Kupang est devenue la première porte d'entrée des participants de la voile d'Indonésie avant de se rendre dans d'autres régions d'Indonésie. Pomi Oja espère que tous les participants de la voile d'Indonésie arrivent jeudi après-midi, le 2 août. Il a ajouté que pendant qu'ils sont à Kupang, les participants visiteront plusieurs destinations touristiques telles que la région d'Alor, Lembata et d'autres villes de l'île de Flores. Le voyage se terminera à Labuan Bajo avant qu'il ne quitte pas encore NTT pour visiter d'autres îles en Indonésie. Le consulat général de Chine à Denpasar, Bali, a apprécié le gouvernement indonésien dans l'effort de sauvetage et de traitement des victimes et des touristes étrangers, y compris les citoyens chinois qui ont été coincés au sommet du mont Rinjani quand il y a eu le tremblement de terre à Lombok, à Nusa Tenggara de l'Ouest. Le consulat général de Chine, Guo Haodong, à Denpasar, a déclaré récemment que les 16 touristes chinois avec plus d'un millier d'autres grimpeurs ont été évacués à un endroit plus sûr par l'équipe conjointe locale. Selon Guo Haodong, ils sont bien traités et leurs conditions actuelles sont bonnes. Bien qu'il y ait un sens de traumatisme, il est optimiste que cela n'interférerait pas avec la visite touristique chinoise, car c'était un événement naturel. Conseil d'affaires de diaspora indonésienne avec le ministère de l'Intérieur ont signé un mémorandum d'accord visant à faciliter la coopération accrue entre les deux villes jumelles, entre des gouvernements principaux ou locaux en Indonésie et en Australie. Antara a rapporté que la signature d'un protocole d'entente entre le directeur régional du Conseil d'affaires de diaspora indonésienne de l'Australie, Astrid Vasil, et le chef du centre de facilitation pour la coopération du secrétariat général du ministère de l'Intérieur, Nelson Simanjuntak, tenu à Jakarta mercredi. Dans un communiqué de presse à Jakarta, Astrid Vasil a expliqué que l'amélioration de la coopération de la ville jumelle entre les gouvernements locaux en Indonésie et en Australie profiterait les deux régions. Les villes jumelles rapprochent les gens et encouragent la croissance du secteur du tourisme dans les deux régions afin de créer des emplois. Le programme de villes jumelles peut également aider la communauté des deux régions à trouver des partenaires commerciaux idéaux et à ouvrir des opportunités commerciales et d'investissement pour les gens d'affaires qui souhaitent explorer de nouveaux marchés. C'est tout le journal aujourd'hui.